Canal Sud 92.2, c'est l'heure des petits papiers. Le mercredi 18-19, le vendredi 11h midi ou quelque chose comme ça. On retourne sur Sivens, on retourne sur la zone humide du Testé massacrée. Massacrée comme l'a été le jeune Rémi Fraisse, 21 ans. Il mourait le 26 octobre 2014. Tous les ans, on y retourne. C'est à 3 quarts d'heure de Toulouse. On y était. C'était dimanche. Une grosse et grande et forte journée. En plus, on a le soleil. Il y aura d'abord le retour sur les données judiciaires de cette affaire. La famille ne lâche pas l'affaire. Claire Dujardin, l'avocate, une des avocates, nous en parle. On va aussi faire le tour de plein de projets inutiles et imposés qui veulent se faire dans le Tarn et ailleurs. Eh bien, comme vous allez voir, ils sont pleins. Elles sont beaucoup à s'y opposer. Tout d'abord, un petit détour du côté donc des propos de Claire Dujardin, avocate de la famille de Rémi Fraisse. Mais on rappelle aussi qu'elle a été l'avocate de tous les opposantes à la construction de ce foutu barrage de Sivens et donc contre la destruction de la zone humide du Testé. Allez, on se retrouve dans 11 minutes. Vous allez écouter bien, c'est pas fini. On a même rendez-vous le 10 novembre, c'est vous dire. Allez, Claire Dujardin, c'était dimanche 24 octobre et c'était à Sivens, donc à côté de là où est mort le jeune Rémi Fraisse. Voici 7 ans.
Ok, alors vous m'entendez toutes et tous? Alors il y a eu un petit couac en fait, parce qu'il y en avait certains qui ne savaient pas où c'était l'endroit où où il y avait ce qu'on appelait la dalle d'argile et la zone de la gendarmerie, la zone qu'ils appelaient la zone de vie. Et en fait, donc la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, tout a été recouvert en fait, la végétation a repris sa place. Et donc en fait, là, c'était la dalle, tout le long comme ça. Et là-bas au bout, en fait, au même niveau que la colline qui descend, c'est là où il y avait en fait l'endroit protégé par les gendarmes et là où il y avait les grillages et la douve tout autour. Les douves tout autour. Et donc c'est là qu'il y a eu les affrontements et c'est là que Rémi est tombé donc le 26 octobre 2014. Et tout ça a été déforesté sans autorisation. Il y a eu finalement une décision du tribunal administratif qui a acté que c'était illégal, tout ce qu'ils avaient déforesté, parce qu'ils ont déforesté beaucoup trop que l'autorisation qui avait été donnée. Donc c'est pour ça qu'on voit là tout un endroit où il n'y a pas d'arbres. Et le barrage, devait être construit depuis la zone là jusqu'aux arbres là-bas. Donc voilà à peu près toute cette zone qui est concernée. Alors moi, je voulais juste faire un point avec vous sur le traitement judiciaire de l'affaire, en tout cas des circonstances qui ont amené à la mort de Rémi Fraisse. Donc comme vous le savez, eh bien, la procédure devant le juge d'instruction a été clôturée, il y a eu une ordonnance de non-lieu. On a fait appel contre l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu. Et ensuite, on a été devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction. C'est-à-dire que toute la hiérarchie judiciaire a considéré que ce qui s'est passé à Sivens était tout à fait normal, entre guillemets, parce que les gendarmes ont utilisé la force comme ils avaient le droit de le faire, et que c'est un peu la faute à pas de chance. Et qu'en face, il y avait, c'est le terme qui a été repris par la Cour de cassation, qu'il y avait en face des émeutiers. Et que de toute façon, les gendarmes n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser la force, que d'utiliser ces armes, ils devaient tenir le terrain. On le sait tous et toutes, le terrain était vide. Donc en fait, ils tenaient un terrain vide. Ils ont utilisé des grenades, comme la grenade OFF1, contre des manifestants. Des manifestants, ça ressort du dossier, qui n'avaient pas, à ce moment-là, de cocktail Molotov, qui jetaient des cailloux. Et les gendarmes mobiles étaient protégés par un grillage et par des douves. Donc ça, la procédure, très vite on a su que ça n'irait pas jusqu'au bout, enfin que ça irait à un non-lieu parce qu'il y a eu plein d'éléments qui nous ont fait dire qu'ils n'avaient pas envie d'instruire, qu'ils n'avaient pas envie que ça sorte, qu'ils n'avaient pas envie que ça sache et qu'ils n'avaient pas envie qu'il y ait un procès qui soit organisé. Donc ce que nous on dit dans ce qui s'est passé là, c'est qu'on n'a pas eu le droit à un procès. On n'a pas eu le droit à la justice, mais aussi on n'a pas eu le droit à un procès. Et là, on voit par exemple, il y a l'affaire, le procès des attentats du 13 novembre. Eh bien, on sait en fait qu'on va condamner des gens. Il y a les auteurs, une partie qui sont morts. Et on a fait le procès en fait pour que les victimes, elles puissent parler et qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Et bien là, pour Sivens, on ne veut pas. On ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas qu'il y ait un procès. On ne veut pas passer du temps en fait sur ce qui s'est passé. Bon, ça, on le savait. Il s'avère que voilà, on est coincé. Et donc, du coup, on a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on peut saisir la Cour européenne lorsque toutes les voies internes sont épuisées, ce qui est le cas, puisqu'on a été jusqu'à la Cour de cassation. Et on a saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français, en disant l'État français a violé la Convention européenne des droits de l'homme, notamment l'article 2 sur le droit à la vie. C'est-à-dire que l'État français, en fait, n'a pas tout fait pour garantir la sécurité, la sûreté, en fait, des manifestants et n'a pas tout fait pour qu'il n'y ait pas un mort et des blessés. Et ensuite, ce qu'on dit, c'est que l'État français n'a pas organisé les moyens, n'a pas donné les moyens à la justice pour qu'on puisse condamner les gendarmes et qu'il puisse y avoir un procès. Alors, ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, on a deux bonnes nouvelles, entre guillemets, parce que ça reste quand même des nouvelles concernant la justice. Donc voilà, on connaît ses limites. Mais la bonne nouvelle, c'est que la requête a été très vite enregistrée, très vite reconnue, recevable, ce qui est très difficile à la Cour européenne parce qu'il y a beaucoup de formalisme. Et donc la Cour européenne a reconnu que la requête était recevable et elle a qualifié cette requête d'une requête à fort impact. C'est-à-dire qu'il y a différentes qualifications des dossiers devant la Cour européenne. Il y a des dossiers de très grande importance, il y a des dossiers qui ne sont pas qualifiés, il y a les dossiers à fort impact. Donc là, la Cour européenne a considéré que c'était à fort impact, que donc du coup, il y avait un élément sérieux, il y avait des éléments sérieux dans le dossier. Et du coup, elle a considéré qu'il fallait organiser la procédure en accéléré. Donc, on peut escompter avoir peut-être une décision dans un an et demi, au lieu de 3 ans. Bon. Alors, je vais vous lire parce que là, donc, la phase, c'est que la Cour européenne a envoyé la requête à l'État français et l'État français, du coup, va devoir répondre. Et dans cette affaire, elle donne le dossier, mais elle pose des questions à l'État français. Et donc, du coup, voilà les deux questions qu'elle a posées à la France. Première question, le droit de Rémi Fraisse à la vie consacré par l'article 2 de la Convention a-t-il été violé en l'espèce ? Son décès a-t-il résulté d'un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l'article 2, et de la jurisprudence de la Cour? Et là, la Cour cite la jurisprudence Giuliani et Gaggio, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, contre Italie, qui concernait les événements qui avaient eu lieu à Gênes en 2001, et la Cour européenne avait considéré que l'Italie n'avait pas respecté la Convention européenne parce qu'elle avait organisé des manifestations et que les gens avaient été blessés, qu'il y avait eu un mort, et que donc du coup on n'avait pas assuré la sécurité des manifestants. Donc ça c'est un élément, les questions sont posées, la référence à Giuliani est forte parce que ça veut dire que, en tout cas moi je l'interprète comme ça, que la législation française en fait n'est pas suffisamment précise pour protéger en fait les manifestants dans le cadre de ces manifestations type ce qui s'est passé à Sivens. Et la deuxième question, s'agissant des obligations procédurales découlant du droit à la vie, l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l'article 2 de la Convention ? C'est-à-dire que là, nous on a dit, ce n'est pas possible, en fait, à la suite de la mort d'un manifestant, ce n'est pas possible de ne pas organiser de procès, ce n'est pas possible de ne pas mettre en examen les gendarmes, ce n'est pas possible de clôturer une histoire comme ça avec une ordonnance de non-lieu. Et donc du coup, on demande aussi à ce que la Cour constate que la France n'a pas fait le boulot et n'a pas été jusqu'à condamner les gendarmes. Donc voilà où on en est. La phase, l'État français va devoir donner une position sur une possible transaction. Ensuite, on a le droit d'accepter ou pas la transaction. Et après, il y a une procédure contradictoire qui s'ouvre où l'État français donne ses arguments. Nous, on y répond. On peut faire intervenir éventuellement des associations. Si la Cour est d'accord, on peut faire intervenir Amnesty International, on peut faire intervenir le Défenseur des droits, on peut faire intervenir... il faut y réfléchir à qui on peut en faire intervenir et qui on veut en faire intervenir. Et donc, il y aura après une audience à Strasbourg, devant la Cour européenne, donc à un moment donné où on clôturera les débats. Donc ça, c'est pour la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'on attend, nous, c'est une décision qui dit que on ne peut pas faire usage des armes comme ça et que, en l'espèce, oui, la gendarmerie a tué et oui, la police tue en France. Et donc, on aimerait qu'il y ait une décision de principe de la Cour européenne qui pourra être utilisée pour les gilets jaunes, pour d'autres ZAD et qui pourra marquer un peu, en tout cas recadrer et faire en sorte de forcer l'État français à revoir sa législation. Et donc c'est important de ce contexte, puisque la France est quand même montrée du doigt depuis des années par rapport à son maintien de l'ordre, par rapport aux violences policières, et le fait qu'elle ne fait rien, puisque j'imagine que vous le savez, mais tous les dossiers de violences policières concernant les gilets jaunes, aucun dossier n'a donné lieu à un procès, les dossiers se perdent dans les cabinets d'instruction, il n'y a pas d'enquête réelle, et donc du coup, une fois de plus, en fait, la France ne fait pas le travail pour stopper les violences policières. La deuxième bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on a une audience au tribunal administratif de Toulouse le 10 novembre à 9h, parce qu'on a, parallèlement à cette procédure pénale, judiciaire, on a initié un recours administratif contre l'État français pour engager cette fois-ci la responsabilité du préfet, puisque le préfet du Tarn a mené l'opération, que c'est lui qui a donné les ordres. Et donc, du coup, là, on engage la responsabilité du préfet dans cette opération de maintien de l'ordre pour l'opération en elle-même, mais aussi pour l'usage des armes, et qui a entraîné la mort de Rémi Fraisse. Donc, du coup, là, l'audience est publique, elle va être examinée le 10 novembre à 9h. On n'aura pas le résultat tout de suite. On aura probablement un avis du rapporteur public qui va nous donner son point de vue sur le dossier. Et donc, on va le plaider avec Étienne Noël, qui a initié la procédure aussi avec moi sur ce volet administratif de la procédure. Donc, voilà où on en est. On espère avoir des décisions favorables, même si après, il y aura appel. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais c'est des petites graines. Et on espère que ça va pouvoir aider pour d'autres procédures. Et on vous tiendra au courant sur les décisions qui seront prises. Voilà.
C'était Claire Dujardin, c'était dimanche 24 octobre et c'était sur la ZAD du Testé. Alors rendez-vous le 10 novembre au tribunal administratif de Toulouse. Sur la zone humide du Testé, il y avait beaucoup, beaucoup de gens ce dimanche. Et après donc le pique-nique traditionnel et ensuite tout le monde s'est retrouvé donc en bas, ce qui était le futur barrage de Sivens et qui aujourd'hui est une zone humide qui progressivement reprend ses droits. Oh bien sûr, les grands arbres qui avaient un siècle ou plus, plusieurs siècles, eh bien eux, faudra attendre. Justement, un petit retour sur la folie en fait de l'agriculture industrielle. Eh bien, le mieux c'est d'écouter donc cette personne qui était venue en parler.
Avant de passer la parole à Marie Thuy, qui est venue spécialement pour nous du Mexique et qui est la représentante du Congrès national des indigènes. Alors Sivens, je vais vous reparler de Sivens. Sivens, qu'est-ce que c'est ? Sivens, c'est un symbole. C'est le symbole de la faillite de l'agriculture industrielle. Cette agriculture qui a plus de 50 ans a décidé de produire notre nourriture en utilisant de la chimie, de la biologie et de la mécanisation qui deviennent de plus en plus pointues d'ailleurs. Alors, il faut bien reconnaître que pendant longtemps, ça a marché. Mais depuis quelque temps, il y a des mains qui se lèvent, des spécialistes, des agronomes, y compris des agronomes de l'INRA, de l'Institut officiel, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, les rendements de l'agriculture baissent inéluctablement. Et il n'y a rien à y faire, ils ne trouvent pas de solution pour faire en sorte que ces rendements reprennent leur niveau antérieur. Alors parallèlement à ça, ici, on a décidé, quand je dis « on », ce sont nos décideurs, ce sont les élus qui ont décidé de donner plus d'eau aux agriculteurs qui se trouvent dans la vallée du Tescou. Alors moi, cette volonté de nos élus, elle me fait venir deux remarques. La première, c'est que si aujourd'hui on donne plus d'eau aux agriculteurs, si on ne change rien par ailleurs, les mêmes causes donnant les mêmes effets, dans quelques années, 4, 5, 6 ans, eh bien on nous redemandera encore plus d'eau. À supposer qu'il en reste d'ailleurs. Et la deuxième remarque, je pense que nos élus, en fait, des agriculteurs de la vallée, ils s'en foutent royalement. Le prétexte de leur donner de l'eau, c'est simplement la volonté de sauver cette agriculture industrielle. Ils veulent sauver ce modèle agricole parce que derrière ce modèle agricole, il y a des quantités d'argent phénoménales et en particulier des grosses firmes, les firmes agrochimiques, les firmes des semenciers, les firmes des constructeurs de machinisme agricole qui est de plus en plus pointu, hein, puisqu'aujourd'hui on envisage de faire fonctionner les tracteurs sans agriculteurs, hein, grâce aux satellites et à la 5G. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, eh bien, en fait, c'est nos élus, ils ont fait le choix des profits, de donner de l'argent aux actionnaires par rapport à la vie. Parce qu'aujourd'hui, si jamais on laisse continuer ce modèle agricole, c'est la désertification des terres qui nous pend au nez et c'est la perte à terme d'eau potable pour les populations. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est de refuser de donner, contrairement à nos amis du collectif Testé, c'est de refuser de donner la moindre goutte d'eau aux agriculteurs. Non pas parce qu'on leur en veut, pas du tout, mais c'est parce que si on leur donne de l'eau, eh bien en fait, ils vont poursuivre dans ce même modèle et nous amener dans le mur. Ce qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est essayer, avec tout l'argent qui est prévu, d'engloutir dans ce putain de barrage qu'ils veulent nous faire depuis des décennies et des décennies, c'est investir cet argent pour aider ces agriculteurs à passer à l'agroécologie, à la culture sur sol vivant. C'est quelque chose de tout à fait possible, il y a beaucoup d'argent en jeu, et on pourrait aider plus que les agriculteurs de la vallée du Testé, mais certainement une grande partie des agriculteurs du Tarn. Je rappelle au passage que l'agroécologie, elle est déjà efficiente dans un certain nombre de départements, et en particulier dans le Gers et dans l'Aveyron. Ici, je ne sais pas. Mais ici, ça serait l'honneur de nos élus de mettre en œuvre ce projet, non pas pour détruire la nature, pour détruire notre santé, pour nous mettre au bord de la famine, mais pour créer une autre forme d'agriculture. Pour ça, il faut qu'on soit nombreux et il faut que tous ici, nous prenions conscience que nous avons la possibilité de renverser les choses. C'est à nous d'agir.
Agroécologie au lieu d'agriculture industrielle. un regard sur le monde, un monde entier, au lieu d'un chauvinisme effréné. Ailleurs dans le monde, la problématique de l'agriculture est encore plus hurlante qu'ici. On se rappelle ces centaines d'Indiens, d'agriculteurs de l'Inde complètement ruinés, dont pas mal d'entre eux ont préféré mettre fin à leur jour en avalant du Roundup. L'agriculture, voici déjà pas mal d'années, l'agriculture biologique est a priori et d'après pas mal d'études la seule solution à la famine dans le monde. Ailleurs dans le monde, il y a bien sûr plein d'autres luttes similaires. Eh bien, à Sivens, sur le plateau du Testé, ce dimanche, il y avait aussi Marichuy qui fait partie du Congrès national indigène et aussi du Conseil national indigène. Plus ça, on le verra dans une autre émission des Petits Papiers, parce que donc, j'ai pu faire une interview avec elle, avec notamment Corinne à la traduction, et ça demande un peu de temps de faire toute la traduction entière et de faire le montage. Mais néanmoins, elle a pu faire une déclaration avec traduction, et c'était toujours ce dimanche, et c'était à Sivens. Alors le son est un peu variable, mais les propos sont hyper intéressants, je vous prie de tendre l'oreille, de prêter l'oreille. Vous êtes bien sur Canal Sud 92.2.
Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Pues soy María de Jesús, Marichuy, me conocen en México, miembro del Congreso Nacional Indígena. Un espacio que han construido los pueblos de México ante toda esta situación de despojo que se vive.
Je suis Marichuy, donc je fais partie du Congrès national indigène et c'est une institution qu'on a créée pour face à tout ce qu'on est en train de vivre.
Y le llamamos la casa de los pueblos.
Et on l'appelle la maison des peuples.
Lo que les quiero compartir es que la tierra está en peligro. La tierra está sufriendo. Y lo estamos viendo con los cambios del clima. Lo estamos viendo con los árboles que están, algunos ya muriendo. Los animales, nuestras aguas que cada vez van bajando.
L'eau est en train de disparaître, les animaux souffrent.
Entonces todo eso que está pasando, yo creo que se debe a que hay algo que está mal en nuestro planeta.
Tout ça c'est dû au fait qu'il y a quelque chose de très mal qui est en train de se produire sur notre planète.
Y esto que está mal, nosotros los pueblos de México le llamamos el desarrollo o el progreso.
Et ce qui est mal, nous les peuples au Mexique, nous l'appelons le développement ou le progrès.
Porque decimos, dicen los capitalistas o dice el gobierno que es lo mismo. Dice, es que queremos el desarrollo para todos. Pero nosotros los pueblos decimos el desarrollo para ellos.
Le capitalisme ou le gouvernement, c'est la même chose. Il dit, nous, on veut le développement pour tout le monde. Mais en fait, ils veulent le développement pour eux.
Y decimos, el progreso es para ellos, para los que tienen el dinero. Porque quieren sacar más dinero a costa de nuestros bosques, a costa de nuestras aguas, a costa de nuestra tierra.
Ils veulent plus d'argent, toujours plus d'argent, et c'est sur notre dos, sur le dos de nos forêts, de nos terres.
Por eso hemos decidido caminar solos, fortaleciendo nuestras luchas, sin el gobierno, porque siempre nos ha engañado. Y no es de ahorita, de 10, 20, es de más de 200 años que hemos visto que es lo mismo. cambia el color, cambia la persona, pero es un mismo proyecto que se lleva de destrucción a nuestra tierra.
Nous, on a décidé de cheminer seul sans le gouvernement parce qu'en fait, on voit que les gouvernements changent depuis 10 ans, 20 ans et plus, et c'est toujours la même chose, la destruction de notre terre.
Por eso decidimos construir nosotros nuestras propias alternativas, fortalecer nuestras formas que tenemos de organizarnos de vida. Dicen los pueblos de México, tenemos más de 500 años. No es cierto que nos descubrieron, ya estábamos. Y seguimos estando, pues.
Nous avons décidé de construire nos propres alternatives, nos propres façons de faire les choses. Et si on dit, ils disent qu'ils nous ont découvert il y a 500 ans, mais c'est complètement faux. On existe depuis toujours.
Entonces nos toca a los pueblos otra vez volver a la tierra y volver a consumir lo que la tierra nos da. Y para que lo podamos consumir tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que pensar en colectivo, no yo. Como piensa el capitalismo es individual. Estando bien yo hay que se friegue el otro, no sé cómo dicen acá. Y no, lo que queremos es hay que volver a lo colectivo, hay que volver a lo comunitario. A lo comunal, solamente así va a ser posible recuperar esa destrucción que están ocasionando los que quieren o tienen otros intereses en estas riquezas.
Donc il faut revenir à la terre et il faut surtout qu'il y ait une organisation collective, parce que si on est seul face à tout ça, en fait ils se foutent de nous et on se fait avoir, donc il faut absolument qu'on s'organise collectivement.
Y por eso los pueblos pensamos también en ustedes, en todos, porque cuando este planeta colapse, pues no va a escoger blancos, rojos, va a agarrar parejo. Va a agarrar parejo y nosotros decimos, pues entonces si nos va a acabar parejo, nos toca agarrar parejo esta otra reconstrucción de ir recuperando esa forma colectiva como tienen nuestras comunidades y que ha sido lesionada por los partidos, por el dinero, por el poder. Entonces, toca otra vez volver a pensar como nuestros antepasados.
En fait, ça y est, j'ai un trou. Quand la planète, quand ça va être fin de la planète, pardon, ça va être la fin pour tout le monde, quelle que soit notre couleur, qui que l'on soit. Donc c'est aussi ensemble qu'on doit se mettre à lutter contre ça et récupérer les savoirs qui existaient antérieurement d'organisation des communautés pour lutter contre ce désastre qui s'annonce.
Por eso decimos los pueblos, nuestra lucha es por la vida. Una vida colectiva, no una vida individual. Una vida donde quepan otros que vienen atrás, por los niños y niñas, que veo que también acá hay bastante. Nos toca pensar en ellos. ¿Qué planeta les vamos a dejar?
Notre vie est une lutte et il faut que on puisse englober tout le monde dans cette lutte et il faut qu'il y ait la place plutôt pour tout le monde et je suis très heureuse qu'il y ait beaucoup d'enfants ici et il faut se poser la question quelle planète allons-nous leur laisser.
Y por eso nuestra visita por acá para escuchar esas otras resistencias que ustedes llevan, escucharles y llevar esa palabra allá a esas otras resistencias. Y pues platicar que por acá también están pensando en la vida de todos y todas y que pues esto que me llevo y que he conocido y estoy escuchando, créanme que lo van a conocer allá y nos va a ayudar mucho también.
Je suis ici pour connaître justement vos luttes et puis pour apporter là-bas tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, ce que font les luttes ici et ça va nous aider aussi beaucoup là-bas.
Entonces solamente decir que nos toca construir otro mundo donde quepan muchos mundos, como dicen nuestros hermanos zapatistas.
C'était Marie Chui qui fait partie du Conseil national indigène et du Congrès national indigène. Elle s'exprimait au Testé ce dimanche 24 octobre. On remercie beaucoup également Corinne pour la traduction. Vous voyez, c'est très difficile l'interprétariat en direct et elle s'est pas mal défendue, vraiment, faut le dire. Vous êtes bien sur Les Petits Papiers sur Canal Sud. Jegros viene de mí. Ce dimanche 24 octobre, il y avait non seulement des personnes qui étaient là pour affirmer leur solidarité avec toute la famille de Rémi Fraisse qui se bat pour obtenir justice face à l'assassinat de leur enfant, là, ça rappelle que c'était en 2014, et aussi tous ces gens qui étaient là justement en défense de la zone humide du Testé, dans le cadre donc de cette lutte était tombé le jeune Rémi Fraisse à l'âge de 21 ans, et puis On se constate aujourd'hui qu'il y a toujours et encore d'autres projets auxquels il faut s'opposer. Avez-vous entendu parler de Terra 2 ? Terra 2, ça sonne bien, hein, Terra 2, hein. On dirait presque un truc de science-fiction, tout ça. Mais en fait, c'est une sacrée saloperie. Et Terra 2, si les habitants et habitantes de Saint-Sulpice-la-Pointe n'y prennent garde, ainsi que tous ceux qui sommes aux alentours, eh bien, on pourrait avoir quelque chose d'assez moche. Allez, on écoute ce qu'il en est et la lutte qui se construit contre ce Terra 2. 5 minutes à écouter ça, vous êtes toujours sur les pieds papiers.
Bon, d'abord, je voudrais commencer par dire qu'on est tous là d'abord pour rendre hommage à Rémi Fraisse, hein, et que c'est pour que cette tragédie ne se reproduise jamais. Quelques mots sur Terra 2. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Terra 2 est un projet d'une plateforme logistique géante située à Saint-Sulpice-la-Pointe, hein, sur la ZAC des Portes du Tarn. Quand on parle de plateforme logistique géante, il s'agit vraiment d'un monstre, hein, puisque le bâtiment doit faire 500 mètres de long sur 15 mètres de hauteur à peu près, donc 70 000 mètres carrés, c'est 10 terrains de football, enfin, c'est gigantesque, 120 quais de chargement pour les camions, donc des centaines de mouvements de véhicules par jour entre 6h et 22h, c'est quelque chose de colossal. Donc un collectif s'est créé à Saint-Sulpice avec une association qui s'appelle Saint-Sulpice Active et Citoyenne, des mouvements politiques, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, et évidemment des citoyens qui se mobilisent, qui sont, s'organisent au sein de ce collectif. L'objectif, c'est d'abord de s'opposer à ce type de plateforme, parce que pour les nuisances qui sont créées, hein, des nuisances, évidemment, artificialisation des sols, destruction de la biodiversité, puisque sur la zone, il y a une centaine d'espèces protégées pour lesquelles un arrêté de destruction a été pris. Et puis les nuisances engendrées si ce projet se fait, c'est-à-dire que le bruit, la pollution atmosphérique, en ce moment, la question essentielle, la question première, c'est la question sans doute première pour notre avenir, c'est la question du changement climatique. Et si on met des centaines de camions sur les routes, c'est évidemment pas, ça va évidemment pas dans le bon sens. Et puis plus fondamentalement, c'est vraiment le rejet du projet de société que représente ce type de structure, puisqu'il s'agit en fait d'un, bien qu'on nous raconte que ça ne va pas être ça, c'est très flou, mais ne peuvent s'intéresser à des plateformes de cette dimension que des sociétés de e-commerce, de commerce en ligne, et on voit qui sont ces sociétés, comment elles travaillent, qu'il faut venir du bout du monde, des produits fabriqués à bas coût, dans des conditions sociales et écologiques épouvantables, et qui distribuent ça, et donc tout ce modèle, nous le rejetons. Donc, c'est une lutte qui a plusieurs niveaux, je vais dire, hein, un niveau purement local, parce que ça va entraîner des nuisances pour les habitants du territoire, et puis un niveau plus global, puisque c'est un modèle qu'on rejette. Donc là, on est sur une phase assez cruciale, puisque l'arrêté de destruction d'espèces protégées, la dernière décision qui permettrait de commencer les travaux a été prise par le préfet. Et donc, on s'attend à ce que les travaux puissent commencer dans les jours, les semaines qui viennent, etc. Et les opposants sont toujours décidés à s'opposer. Voilà, j'en dirai pas plus, mais on n'a pas l'intention de changer d'avis sur cette question-là. Donc, on a le mouvement. Alors, parce que les dernières informations, la dernière actualité, elle a été connue il y a deux jours, puisque cette zone a été déclarée comme une zone logistique clé en main par le gouvernement, puisqu'il y a eu un certain nombre de zones en France qui ont été labellisées, on va dire. Et donc ça va à l'encontre de toutes les déclarations, toutes les promesses, entre guillemets, qui avaient été faites en amont par les élus décideurs, c'est-à-dire que cette zone n'était pas une zone logistique et c'était une zone à caractère industriel pour le développement local, etc. etc. Là, on est sur quelque chose qui est la négation absolue de tous les engagements qui ont été pris en amont. Donc, il y aura une conférence de presse demain, d'ailleurs, hein, pour dénoncer cette nouvelle décision, hein. Et on donne rendez-vous, alors pas pour des manifestations, hein, on donne rendez-vous pour des rencontres sur la zone de ceux qui veulent bien savoir de quoi on parle, hein, tous les dimanches après-midi à 14h pour, disons, faire connaissance de ce territoire et voir de quoi on parle. Voilà, c'est ce que je disais, de quoi il s'agit sur ce sujet. Voilà. Sur la bagarre qu'on est en train de mener sur la ZAC des Portes du Tarn.
Bonjour, donc moi je suis là au nom du collectif Pacte, donc pas d'autoroute Castres-Toulouse. Là encore, et je dirais malheureusement, hein, sur le Tarn, c'est vraiment le projet phare, grand projet inutile et imposé. Ça fait 14 ans qu'on lutte contre ce projet. Il avait été dit autoroute 2013, ça va, c'est rassurant, on est en 2021, il n'y a toujours pas d'autoroute. Donc ça, c'est quand même la force d'opposition qui a été mise en place. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce projet, juste très rapidement, voilà un projet qui a été demandé par Monsieur Fabre, des laboratoires Fabre, j'aime à le dire, parce que ça s'appelle le Fée du Prince, ça existe encore, au 21e siècle. Monsieur Fabre, pour aller plus vite à l'aéroport de Toulouse et pour que les camions viennent plus vite dans le Tarn, a voulu effectivement une autoroute. Il y a aussi tous les élus locaux de Castres qui, eux, rêvent encore d'être la préfecture, d'être reconnus comme la préfecture du Tarn. Et alors, pour l'image de Castres, il faut une autoroute. Bon, l'image, elle coûte 500 millions d'euros quand même. 500 millions d'euros pour un peu plus de 50 km. Donc, ce n'est pas Castres-Toulouse, c'est Castres-Verfeil. Et après, à Verfeil, on prend la bretelle qui nous renvoie sur la 68. Donc, 500 millions d'euros avec une subvention d'équilibre. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la subvention d'équilibre? Un concessionnaire, il ne vient pas comme ça prendre un projet. Il lui faut quand même quelques appâts. Et cet appât, ça s'appelle subvention d'équilibre. C'est de l'argent public. Voilà, ça s'appelle un partenariat, un contrat public-privé. Et donc, souvent, c'est plutôt de l'argent public qu'on met dans la corbeille. Là, on en est à 200... Alors, ils nous disent 230 millions d'euros. Nous, opposants, depuis très longtemps, on a calculé qu'on serait plus aux alentours de 280, voire même plus. C'est de l'argent public, c'est-à-dire que c'est un projet qui va rapporter au concessionnaire, s'il est rentable, avec quand même un apport de plus de 65% d'argent public pour une concession qui a été estimée par l'Adréal à 50 ans. Donc, c'est-à-dire que comme ce projet n'est pas rentable, la dette, on la reporte à nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est un truc qu'on connaît bien, mais c'est grave pour, quand même pour les générations futures. Qu'est-ce qu'il y a à dire dans ce projet? On s'est beaucoup opposé. On a même fait des recours devant le Conseil d'État pour annuler la déclaration d'utilité publique. Bon, on n'a pas été trop étonnés quand on a eu la réponse du Conseil d'État et surtout quand on a lu la conclusion du rapporteur public, parce qu'on s'est demandé s'il avait vu tout le travail qui avait été présenté par les avocats. Bref, on a été effectivement refoulés. Aujourd'hui, donc, le projet continue. On ne s'arrête pas comme ça au niveau de l'État. Le projet continue. Et dernièrement, l'État nous a annoncé, par la voix de notre cher Premier ministre, M. Castex, qui est venu spécialement à Castres, enfin, pas à Castres exactement, mais à côté, pour annoncer ce concessionnaire. Le concessionnaire, parce qu'il y avait un appel à candidature, ce concessionnaire, on s'attendait à Vinci, on s'attendait à Eiffage. C'est là où c'est intéressant. En fait, c'est ni Vinci, ni Eiffage, c'est NGE. Ah, qui est NGE? NGE, c'est une entreprise de BTP qui veut jouer maintenant dans la cour des grands. Apparemment, c'est elle aussi qui a déjà fait les déviations de Castres, de Soile et de Puylaurens. Parce que sur ce projet, sur cet axe, deux déviations ont été payées avec de l'argent public déjà pour éviter Soile et Puylaurens. Ces déviations vont être rétrocédées aux concessionnaires. Donc les usagers devront repasser par les villages s'ils ne veulent pas utiliser l'autoroute. Donc leur trajet, leur temps de trajet va être allongé et la qualité de ces villages va être complètement perturbée. Donc c'est justement NGE qui a fait ces deux déviations. Alors c'est bien parce qu'il récupère son bébé, c'est bien. Mais surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est pas tant de savoir que c'est NGE. D'ailleurs, on nous précise bien que pour l'instant, c'est un accord de principe. Voilà, il y a eu des candidatures, on a relevé un candidat, mais ça reste encore de principe. Pourquoi ça reste de principe? Et pourquoi d'ailleurs Vinci et Fache, ces poids lourds, se sont retirés du truc? Ou ont fait en sorte de se retirer du truc? Parce que ce projet n'étant pas rentable, ça sous-entend quoi? Pour équilibrer le projet, il faut soit un prix du péage élevé, or à Castres, les gens, ils ne roulent pas sur l'or. Et, ou sinon, une subvention d'équilibre très élevée. Et effectivement, voilà, Vinci et Fage n'ont pas été retenus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui confirme ce que nous avons toujours dit, nous, opposants. Ce projet n'est pas rentable. Donc, il faudra effectivement sortir énormément d'argent. Et je pense que quand l'État a vu les dossiers de ces candidats, ils ont dit, c'est pas possible, on va se faire incendier. Alors, quels sont les accords avec NGE? Moi, j'en sais rien. Moi, j'attends de savoir, et au pacte, on attend de savoir ce qui n'a pas été dit, les chiffres qui n'ont pas été dits, c'est-à-dire précisément le coût de la subvention d'équilibre et le prix du péage. Parce que c'est ça qui va dépendre de la viabilité du projet. Bon, je vous le dis tout de suite, de toute façon, il n'est pas viable le truc. Mais bon, qu'on ait au moins un peu plus d'arguments à mettre dans la balance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut qu'on attende. D'autant que NGE, bon, il veut rentrer dans la cour des grands. Très bien. Le problème, c'est qu'NGE, justement, avait lancé une consultation publique il y a un an, plus d'un an, pour l'ouverture de carrières temporaires sur différentes communes dans le Tarn. Il y avait Montcabrier, Villeneuve-sur-Tarn et Saint-Germain-des-Prés. Et puis là, bizarrement, il n'y a plus de problème de Remblai. Alors, pourquoi avoir fait cette consultation publique? Pourquoi? Et c'est ça, c'est là où je veux faire appel un peu à votre esprit pertinent. C'est-à-dire que ce que vous avez là, ce que je vous dis là, c'est depuis le début de ce projet que ça se passe ainsi. C'est-à-dire, ils ont voulu nous sortir un projet qui réponde à la demande de M. Fabre. Ils ont voulu passer ça en force et très vite. Le problème, c'est que le dossier, il ne tient pas la route. C'est le cas de le dire. Le dossier ne tient pas la route. Et aujourd'hui, encore une fois, NGE qui nous disait « il nous faut une quantité monstre de remblai », nous dire « ben non, on n'en a plus besoin ». Donc, nous, au pacte, on est assez confiants en se disant « toute cette histoire est encore une histoire de com ». Ils nous ont annoncé le concessionnaire, ok. N'oublions pas qu'il y a les présidentielles quand même, l'année prochaine, et que c'est formidable parce que le truc ne va pas être traité d'ici là. Et donc on va encore envoyer ça au prochain gouvernement. Et c'est ça qui nous rassure, parce que depuis le temps, depuis 14 ans, on en a vu des élections présidentielles, législatives. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est repoussé, repoussé, repoussé. Malheureusement, on sait pertinemment qu'au sein de l'État et avec la force des lobbies, ils ont tout le temps pour eux. Donc, il faut rester mobilisé. Moi, je continue d'être assez confiante. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on soit toujours là, sur le coup, très, très nombreux, quoi. Donc, n'hésitez pas à suivre les infos du pacte, que ce soit sur notre page Facebook. Certains sont abonnés à notre mailing list. Si vous souhaitez l'être, vous venez vers moi, vous me donnez vos coordonnées et vous serez tenu informé. Mais surtout, ce n'est pas tant l'information, bien sûr qu'il a faux l'information, mais c'est surtout si on est convaincu que ces projets inutiles à imposer, on n'en a vraiment pas besoin, il faut être très 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 nombreux. Il n'y a qu'une opposition forte qui nous permettra de pouvoir non seulement nous faire entendre, parce que dans cette histoire en plus, je suis désolée, je suis un peu longue Jean-Claude, mais j'oublie de vous préciser une chose fondamentale. C'est qu'en 2016, avant l'enquête publique, il y a 16 collectivités locales, plus le conseil départemental de Haute-Garonne et deux communautés de communes. Je ne dis pas le conseil régional, il s'est fait tirer l'oreille, il est venu, Delga a dit « ouais, il faut quand même qu'on participe, qu'on se fasse bien voir ». Mais tous les autres participants ont payé sur leurs fonds propres une étude pour montrer qu'on pouvait effectivement aménager l'existant, la RN 126, avec ce que l'État et les collectivités sont prêtes à mettre dans la subvention d'équilibre. Et c'était bien moins que le prix que je vous ai annoncé tout à l'heure, le coût que je vous ai annoncé. Donc on peut aménager l'existant, partout les opposants, c'est ce qu'ils demandent, qu'on aménage l'existant. Il faut arrêter de détruire, il faut arrêter de polluer, faire avec ce qu'on a. et ça profiterait à tous, ça resterait dans le domaine public. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez revenir vers moi, je suis à votre disposition. Voilà, merci.
Pour exercer notre vigilance citoyenne et en commémoration de l'assassinat de Rémi Fraisse, vous le savez. Alors Jean-Claude, très généreusement, m'a donné 2 heures pour vous exposer un nouveau sujet. Et après, il est revenu dessus et j'aurai que 4 minutes. Bon. Alors, quel est ce sujet? C'est quelque chose qui, moi, tant que militant, mais beaucoup d'entre vous aussi, nous tracasse. C'est qu'on sait comment on a dû se battre contre l'État, contre les mensonges de l'État. Depuis 2012 qu'on a commencé ici à s'intéresser à la chose, on voit où on est encore à suspecter qu'ils veulent refaire pousser quelque chose sur ce projet qui a pourtant été arrêté par notre action. Mais depuis maintenant 18 mois, on vit autre chose, on vit quelque chose qui nous a impacté très très profondément, vous le savez, de nombreux modes de vie ont été perturbés très gravement par une pandémie. Et on est quand même nombreux maintenant les samedis à se retrouver, à manifester, comme on le faisait ici en son temps. Et on sait aussi qu'on doit agir, même en dehors des manifestations, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, comment notre société en ce moment est absolument malmenée, mais à un point que nous n'arrivons pas à imaginer, puisque nous n'avons pas pu encore évaluer tous les dégâts commis. Ils se révèlent petit à petit, parce que, malheureusement, et on le sait, les médias ne jouent pas du tout la courroie de transmission qu'ils devraient faire sur l'état de la société, l'état de santé aussi bien physique que psychique de notre société. Et donc, le niveau de gravité atteint est quand même à des sommets qui ont entraîné, vous l'avez vu, une résurgence du mouvement Gilets jaunes après le discours du 12 juillet, qui a quand même quasiment annoncé que la loi, je me l'arrange comme je veux, je vais vous obliger à passer par le chat de cette aiguille, et ça s'appelle le pass, et c'est quelque chose qui n'obéit pas du tout à nos lois. Notre constitution, ils en ont fait un paillasson, et il est absolument nécessaire que nous tous ici réunis ayons cette multi-militance. Civez nous réunit aujourd'hui, mais nous devons en permanence maintenant exercer notre vigilance aussi avec ce qui nous arrive. On a tous plus ou moins des postures différenciées par rapport à ce qu'il faut-il se faire vacciner, pas vacciner, etc. Mais je crois que après ces différences entre nous, il y a des choses qui nous unissent, c'est qu'on sent que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair, où nous mène-t-on? Et là, on a vu émerger quand même, hors des médias officiels, télé, radio et autres, des sites qui sont maintenant conspués, traités de tous les noms, qui essayent de nous apporter des informations différentes de celles qu'on entend. Et je pense que mon message aujourd'hui, il est là pour vous dire que nous devons, à tout prix, essayer de travailler nous-mêmes, chacun de nous, de travailler entre les informations officielles, les informations que l'on peut obtenir de tous les sites disponibles et de se faire des opinions différentes de celles qui sont les seules habilitées à nous arriver par les médias officiels. Parce que c'est très grave et par exemple, je le sais en discutant avec de nombreux militants, peu d'entre eux sont sensibles au fait et même conscients du fait que 2020 a été marqué par quelque chose d'inouï. C'est que pour la première fois, les soignants que sont les généralistes ont été interdits d'exercer leur profession. Ils ont dû renoncer quasiment à leur serment d'Hippocrate. Comment une chose comme ça a-t-elle été rendue possible? Eh bien peut-être par un travail de préparation qui se compte en dizaines d'années de préparation des cerveaux, et on a accepté, et l'agent médical, en particulier les généralistes, ont accepté les ordres venus d'un ordre des médecins qui normalement ne doit pas s'occuper de ces affaires-là. C'est ordinal, il doit s'occuper d'affaires de notoriété, de problèmes entre deux confrères, etc., qui s'enveniment, mais on ne doit pas s'occuper du travail en conscience du docteur. Or, 2020, ça ne s'était jamais vu. Et comment, sans heurts, un gouvernement peut-il arriver à tordre aussi bien les gens de profession que nous, qui sommes les patients, pour accepter cet état de fait? Ça signifie que nous sommes très, très, très faibles devant ce que peut nous imposer cet état. Alors, vous ici, vous êtes quand même un peu exceptionnel, vous êtes là. On est là pour être fort, pour se défendre contre ces médias qui ont quand même réussi à tordre la majorité du pays. Alors, je ne sais pas si je suis au bout de mon temps, mais avant de m'épuiser complètement le temps, je vous le dis, on doit redoubler de vigilance et de travail personnel pour s'informer mieux et essayer de constater des choses qui, maintenant, devraient nous être évidentes, comme cette interdiction d'exercer la médecine qui a malheureusement traversé notre pays en 2020 et qui n'est toujours pas très bien rétablie. Voilà, c'était mon message. Merci.
Mais parlerait-il de réinfo Covid peut-être ? Barrage de Sivens, c'était les 7 ans de la destruction de la zone humide, de la mort du jeune Rémi Fraisse. On rappelle, donc, on a parlé, vous avez entendu, Terra 2, il y a de la résistance. Autoroute Castres-Toulouse, il y a de la résistance. L'agriculture industrielle et mortifère qui génère leucémie et cancer en veux-tu, voilà. Canal Sud 92.2, les petits papiers. Allez, bye bye.